Cézanne, chamane, d'Anne Cibran. Enregistré en public au Festival d'Avignon, dans la cour du Musée Calvet, le 16 juillet 2022, dans le cadre des voix d'auteur avec la SACD.
Nous vivions à Langui au premier temps du monde, endormis sous le toit d'une même maison, les bêtes, les hommes, les étoiles, les montagnes et les arbres. À la fois singuliers mais confondus pourtant, chacun blotti autour du même cœur, germe luisant couvant le tout. Un toit, de palme ou bien d'ajon, et pour seule cloison le souffle des forêts. Accolés, la fourrure et la plume, la chair ou bien l'écaille, la pierre et le ruisseau, dissous dans la tendresse de nos intimités, nous ouvrions des yeux étranges, dépourvus de paupières, des prunelles incendiées. Nos gestes étaient liants, et la biche, et l'oiseau, et l'abeille, et la loutre, nous savions à toute heure nous fondre et nous aimer. Sous cette lumière cendreuse, lunaire, rien ne se dévoilait que nos palpitations, et la joie sans objet, jubilation tranquille de sentir l'autre, à portée de la griffe, de la plume, de la truffe, et d'y fondre le souffle, nos salives mêlées. Au lieu d'histoire, en guise de voyage, nous partagions nos songes où la terre tout entière en ce temps se rêvait. Et la maison sans mur rayonnait de sentiers, ses chemins, ses coulées, où nous irions plus tard, ils étaient là déjà, sans la trace ni l'empreinte, là partout sur les feuilles et les mousses, prêts à se déployer. Qu'avons-nous fait du rêve, quand le soleil a pris le ciel, que tout s'est éclairé? Comment avons-nous pu oublier, sous la diversité de nos costumes, ce qui continue de battre de l'un à l'autre, par-delà l'écorce ou la pierre, par-delà la sève ou le sang, par-delà la pluie ou le vent, ce cœur qui continue d'émettre le chant de l'unité. Car celui qui se dresse ici sous le soleil, enfonce ses racines, arrête ses rochers, celle qui prend le lièvre à la course, où creuse son terrier, tisse la toile, porte la graine, plonge dans la mer, tient sur le vent, celui ou celle que tu croises, que tu frôles, que tu devines, entreaperçois, c'est toi encore, souviens-t'en, souviens-t'en.
Vient alors ce premier matin, celui dont tu te souviendras chaque fois que tu ouvriras les yeux par la suite. Étonné d'être parti ce jour-là avec tant d'innocence. Ébahi encore d'y avoir survécu. Ton père te lève donc, comme pour une chasse. Avec la même précipitation silencieuse et agile, et le même détachement aussi. Comme tu crois revenir vite, tu ne prends rien à quoi tu tiens. Le collier de ta mère restera à côté de ta couche. Tu y repenseras souvent. As-tu déjà traversé le village aussitôt? L'heure où les chiens roulent leurs dépouilles dans les cendres tièdes pour ces rêves de chasse qui crispent leurs mâchoires, les font gémir parfois. Rien ne bouge. Le silence est partout. La brume a mangé les maisons. Ne reste que les seuils. Un filet tendu entre deux arbres, la fleur vide d'un maïs épluché. Vous avez passé le ruisseau, les sentiers qui mènent au jardin, ces collines de troncs épais où vous creusez les pirogues. Ton père avance toujours d'une démarche inflexible. Qu'est-ce qui le presse ainsi, à percer les buissons sans se soucier du bruit des feuilles, des brindilles écrasées? Tu le suis malgré toi. Étonné qu'au lieu d'écouter les bêtes, il soit à courir encore. Qu'est-ce qui le tire ainsi devant? Passé le bosquet de bananiers, il n'y a plus rien que tu connaisses. D'habitude, à entrer dans la forêt sauvage, Le chasseur ralentit, il prend le pas des bêtes. Où allez-vous? On n'avance pas ainsi quand on part à la chasse. Comme tu n'oses arrêter ton père, que les mots s'étouffent dans ta gorge, tes petits pas s'encombrent d'une sourde appréhension. Bien que trottant derrière, tu cherches des repères, impatient, tellement impatient de retrouver ton hamac, de revenir déjà, parce qu'il t'emmène hors des sentiers, loin du village, un peu plus loin à chaque pas. Au fil des heures, il n'y a plus que cette certitude qu'il t'emmène, que tout ce chemin, c'est pour toi. Le soleil a déjà passé la moitié du ciel que vous êtes encore à courir. Et tu t'échines tant à le suivre qu'il y a bien longtemps que tu ne penses plus à rien. Tu as fatigué tes questions. Vous parcourez à présent une forêt de lagunes, des dalles de lacs mauves percées de palmes, dont les racines jettent des pans de filets souples en travers de l'eau. Chemin ondulant et précaire que vous traversez sur le bout des orteils. Le silence est si profond qu'ils boivent au moindre mouvement. Les bras écartés, tu avances avec l'impression de te débattre dans un air lourd et épais comme un miel, tandis qu'une ondulation balaye sous tes pieds la chevelure éployée des racines. Était-ce un dauphin? Une raie? L'ombre glisse lentement sous le regard figé des crocodiles, la narine affleurant des serpents. Vous avez laissé les lagunes pour une forêt de collines hautes, une montagne en surplomb. Ton père s'arrête enfin dans le creux d'un vallon. Tu vas rester ici. Tu n'as plus que la force de t'asseoir sur une pierre, tandis qu'il sort sa machette et, coupant les herbes, trace un grand cercle autour de toi. Ici, tu resteras, mon fils, sans t'éloigner, jamais. Tu as l'eau du ruisseau, les fruits de la Chanta, regarde. Tes yeux remontent le tronc du palmier jusqu'aux grappes de fruits rouges, en même temps que tu ravales à chaque gorgée cette terreur qui t'envahit à mesure que tu comprends. Tu ne feras pas de feu et ne mangeras rien d'autre que les fruits de la palme. Et surtout, tu prendras cela. Il te tend un petit sac de toile, deux pincées dans la bouche. Le matin quand tu t'éveilles, et avant de t'endormir, c'est une plante forte, une herbe à tigre. Elle brûle au début, griffe l'intérieur du ventre. Il te faudra apprendre à la maîtriser, mais tu sauras. T'endormir. Tu regardes autour de toi ce sol hérissé d'épines, de racines, de lianes et de buissons. Ton père parle encore. Le découragement est si profond que tu l'écoutes à peine, tandis qu'il pose un couteau devant toi, un bracelet de plumes, une pierre blanche et ronde, une flûte taillée dans un os fin. La lune est neuve. Je reviendrai te chercher dans un mois. Il a dit ces derniers mots très vite. Et comme le timbre de sa voix a changé tout à coup, avec comme une hésitation, un élan réfréné, tu lèves la tête vers lui, puis tu te dresses, affolé, tu l'appelles car il n'est plus là, ton père, tu le cherches. Il est parti déjà. Quatre-vingts ans se sont écoulés depuis le jour où tu fus donné à la forêt pour ton initiation. Mais j'ignore tout de toi encore quand je viens habiter ta maison. La première fois que je t'aperçois, homme tigre, je remonte de la rivière et la nuit commence à tomber. Les lucioles ne sont pas encore sorties, mais l'ombre a déjà pris le dessous des arbres. Une lumière fauve s'accroche au bord des feuilles, poudre le vent. Depuis le pont suspendu, je regarde les insectes barboter dans ce miel épais, tandis qu'en bas, une eau boueuse charrie des paquets d'écume, quelques troncs. Déjà, les pirogues sont tirées sur la berge. Ne restent que des empreintes de pieds butinées par les papillons. Les yeux remplis de cet ocre tendre, je passe sous les feuillages pour le chemin vers ta maison. Devant moi, sous le toit de palme, je distingue un vieil Indien assis dans un siège en forme de tête d'oiseau. Chaussé de bottes en caoutchouc, couronné de plumes, il fouille dans les poches d'un jean boueux pour chercher un briquet. C'est toi. Arrêté au milieu du chemin, je n'ose plus faire un pas. La serviette sur l'épaule, les cheveux mouillés, je ne sais comment t'annoncer que j'habite chez toi. D'un geste, tu m'invites à tes côtés, sur le banc. Appliqué à rallumer ta cigarette qui s'éteint tout le temps, tu me demandes si j'ai vu les femmes. Je réponds qu'elles sont à la rivière et je m'apprête à t'expliquer que ta fille m'a invité chez vous pour assister à la fête quand tu m'interromps gentiment. Bien, bien. Le silence qui t'entoure semble tendu comme la peau d'un tambour. Je me tais aussitôt. À présent, les lucioles sont sorties qui traversent la maison. Éclairée par les braises du tabac, ton visage apparaît par instants, révélant les motifs dessinés sur tes pommettes, l'arête du nez et le menton. Avec les trois traits peints comme des moustaches aux commissures des lèvres, ça te fait un masque de félin. Étiré devant toi, tes jambes tremblent légèrement, contractées par l'épuisement. Tu sifflotes. Ce dans quoi tu t'es trempé pendant toutes ces journées de chasse te couvre encore. La forêt sèche sur toi. Je la sens qui passe dans ton souffle, qui coule dans ton sang. Comme une ivresse, les visions remontent. De traces fraîches, de cris lancés, de ces attentes folles à retenir le souffle et puis de débandades. Parfois, tu lâches un nom de bête, un grognement. La fumée du tabac qui sort par tes narines a les pattes longues et le regard perçant. Soudain, tu parles d'une voix feutrée. Tu décris une cascade loin d'ici, dans la jungle profonde. Un lieu intact, tellement beau que tu ralentis ta parole, comme à détacher chaque image avec une émotion palpable. Entrer dans l'habit souple de la nuit qui nous entoure, tes souvenirs remontent pour imbiber l'instant. À mon tour, je vois luire les fougères, ce ruisseau vertical qui lèche la falaise, cogne les rochers. Un homme apparaît. Je ne sais pas comment, dans cette forêt sans chemin, toujours est-il qu'il marche vers toi. Il me faut un certain temps pour comprendre que tu parles d'un esprit, le gardien du lieu, un être blanc et transparent comme habillé, m'expliques-tu, par les fils de l'araignée. Que dit-il ? Je crois qu'il ne veut pas que tu viennes ici avec les chasseurs. Tu promets. D'évoquer cette rencontre te rend joyeux. Tu ris encore de ta surprise quand l'esprit est apparu comme sorti d'un grand tronc. Tu jubiles qu'il soit là à protéger la cascade, alors que tant d'endroits s'éteignent dans la jungle profanée par l'homme. Puis tu te tais et je t'entends ronfler.
Alors je m'enfonce, je continue de m'enfoncer jour après jour au fond du loin. Et là encore, comme après cette journée de pirogue où je sentais à chaque méandre du fleuve tout ce qu'était ma vie d'avant s'effilocher derrière moi, et là encore, je disparais. Quand je me lève en même temps qu'eux à 3h30 du matin, prenant d'abord la Wayoussa avec toute la famille, assis sur un rondin sous le grand toit de palme, la nuit encore épaisse, nos visages éclairés à peine, soufflant sur la calebasse à côté du foyer. Aux premières lueurs de l'aube, j'accompagne les femmes dans leur journée, à la cuisine ou dans les champs, et je me perds au même geste. Qu'est-ce qui fait que je viens de si loin jusqu'ici pour m'appliquer à tenter de les aider au mieux ? Si maladroite qu'elles en rient si souvent, attentive, prévenante, venant s'asseoir près de moi pour encore me montrer. À côté du leur, mon pilon s'enfonce dans le manioc, mollasson sans conviction, presque essoufflé. Mes poteries sont grossières et friables. Je ne sais pas porter des choses lourdes. Je dérape souvent dans la boue. On finit par me donner un sac immense de cacahuètes à éplucher. Je travaille auprès des vieilles et cela me convient. On joue à s'échanger des contes, à un chat botté contre l'histoire de l'arbre aux poissons. Je suis assise au coude à coude, serrée à leurs épaules, ensevelie dans cette tâche incommensurable qui durera près de 3 jours et me laissera une cale rouge au bout du pouce aussi pointue qu'un bec. Ainsi, accroupie au milieu des épluchures de cacahuètes, je sens bien que je m'applique des heures durant à disparaître auprès d'elles pour m'approcher de ce qu'elles sont. Mais pas seulement. Je crois que je viens aussi pour m'élargir, trouver d'autres pigments pour ma palette d'écrivain, avec cette ambition d'une écriture plus vaste qui ne ressasse plus le même pays enfermé entre 4 murs. Je voudrais infuser tellement dans ce village d'Amazonie que derrière chaque mot écrit, on puisse entendre et ressentir ce qui n'est pas écrit encore, dont je n'ai pas encore les mots. J'ai l'impression que cette imprégnation peut avoir une réverbération sur mon livre. Je ne sais pas, j'ai l'impression.
On était donc à se frôler, à se parler à peine depuis quelques semaines, quand ce matin, tu me demandes « Pourquoi es-tu toujours en train d'écrire ? Qu'est-ce que tu mets dans tes carnets ?» Je comprends que cette question couve en toi depuis un moment, et d'abord, je ne sais que répondre. « Moi, je n'ai pas les yeux », ajoutes-tu doucement. Comme vous êtes un peuple de la parole, le mot « lire » n'existe pas dans ta langue. À la place, vous avez l'expression « avoir les yeux ». Toi, tu te dis aveugle devant le livre, comme s'il suffisait de te montrer une page écrite pour que la lumière s'éteigne, que tu te retrouves dans la nuit. Plus tard, tu m'avoueras qu'à chaque fois que tu me voyais écrire, tu pensais à des choses tristes. L'arrogance des métis qui venaient jusqu'à vos maisons porter ces formulaires pour le seul plaisir de vous entendre dire que vous n'étiez pas allé à l'école. Les démarches interminables dans les couloirs des administrations afin de faire exister dans les registres vos territoires ancestraux. L'écriture est pour toi une impuissance, vécue comme une infirmité. Enfin, je te réponds que si tu n'as pas les yeux pour le livre, moi, je n'ai pas les yeux pour la forêt. On n'apprend pas dans nos écoles à regarder vraiment le monde, à l'écouter. J'écris pour noter ce que je vois, ce que je sens, comme à surligner les instants. La page retient ce qui m'échappe dans ce foisonnement de jungle. Elle m'aide à ne pas oublier ce que je vis ici, avec vous. Qu'un cahier pût aider à se rapprocher de la forêt de Cider. Jamais tu n'avais imaginé que l'écriture pût ainsi entrer sous les arbres et marcher dans la boue. Je ne t'ai pas dit encore combien nos mots à nous, couchés, enfermés dans les livres, me semblent moins vivants que les tiens. À t'écouter chanter, j'ai compris l'autre soir que ma langue n'avait plus la simplicité de parler avec le monde à voix haute. Même quand tu te tais, il y a autour de ta parole ce grésillement du contact, d'une mutuelle attention. Pendant 3 ans, sur les bancs d'une université parisienne, j'ai appris à parler ta langue. Et ce soir, je comprends pourquoi. 2 jours plus tard, je suis assise avec les femmes quand tu m'appelles. Tu viens marcher dans la forêt ? Ainsi commencent nos balades. À trotter, trébucher derrière toi, une canne à la main. Qu'est-ce qui fait que je m'obstine à emporter mes carnets dans la jungle, serrés dans un filet avec la bouteille d'eau et le canif ? Comme il ne te viendrait jamais à l'idée de t'arrêter pour me laisser écrire, je ne parviens qu'à griffonner quelques phrases à la sauvette, des noms de lieux la plupart du temps, mais j'aime voir mes carnets revenir verdis de sève, boursouflés par l'humidité, les plantes,
et les feuilles d'arbres que tu me cueilles au fil du chemin. Nous partons pour des journées entières dans ce qui me semble être une course ardente et épuisante, toute ponctuée de rencontres et d'énigmes. Tu commences le voyage en réveillant dans la jungle ces noms secrets que tes ancêtres avaient cachés dans de vieux arbres, des rochers, une source. Parfois vient aussi la légende dont tu me présentes quelques témoins. Nos promenades sont surtout prétexte à ranimer des bribes de ton enfance qui palpitent encore, intactes, dissimulées sous les feuilles tout au long des sentiers. Si les premières années de notre vie côtoient parfois le merveilleux, celles d'un chaman apprenant à marcher dans le monde des esprits ont quelque chose de prodigieux. Je l'avais déjà remarqué en écoutant les femmes. Ta vie semble une fable, mais ce qui me fascine particulièrement, c'est la façon dont ce merveilleux s'accorde avec l'endroit où il est raconté. On dirait qu'il en émane. Quand tu racontes, chaque arbre qui nous entoure semble hocher la tête pour acquiescer derrière tes mots. Cette acoustique plus large, cette résonance du récit avec le lieu, donne au miracle des pieds légers. Il s'enchasse parfaitement dans la réalité, tandis qu'une autre vérité se montre, à la fois humble et sublime, anodine et extravagante, mais qui toujours sonne juste. En t'écoutant, j'ai l'impression de voir germer les contes à l'œil nu. La langue dans laquelle tu me plonges est bien plus vaste que l'homme, un verbe palpitant, contagieux, dont je pressens qu'il fut aussi le nôtre avant l'invention de l'écriture. Ici, les mots trottent encore en liberté, comme s'ils venaient à peine de surgir, ou que leur sens en mutation, leur vibration diffuse n'appartenait pas seulement à l'homme, mais à tout ce qui l'entoure. En me promenant avec toi, j'ai l'impression de parcourir un livre vivant, dont la rencontre avec l'arbre ou la bête ranime quelques paragraphes que tu me lis à voix haute. L'expérience est si concrète que je suis sûre que le récit n'aurait pas été le même si nous avions emprunté un autre sentier. Une fois revenue au village, je m'accroupis devant une bougie pour tourner les pages presque vierges de mes cahiers où s'accrochent quelques phrases serrées, pantelantes. Les yeux fermés, je parcours en mémoire le voyage de la journée, m'appuyant sur les détails du chemin pour retrouver le fil de tes histoires, des bribes d'enfance la plupart du temps, les étapes de ton initiation. L'instant s'est perdu du surgissement de ta parole sous la voûte des arbres, avec l'attention, les lumières de ce bord de rivière, de cette clairière dans la forêt. De ce que tu as raconté, je n'ai pu garder que l'ossature légère, ce restant de poussière d'or, la trace infime de ce qui a été frôlé. En même temps que je découvre ce bain amniotique du verbe, qu'il existe dans la tiédeur des tropiques quelques endroits encore où le conte a les eaux frais, surgit l'effroyable menace, et pour ta forêt et pour l'homme que tu es, d'un silence absolu. La tentation est grande de se laisser fasciner, dévaster par la représentation du désastre. Heureusement, il y a le chant.
Carolia, Carolia, tata. Nunca, nunca, amor. Amália, querida, amante. Panice, tu. Mana ri kurisha vine vineta atumpula urmagrisha lakisha atumsisa kalati ukuibi urmasha.
Je me souviens de tous les lieux où j'ai écrit comme une vieille araignée. Toutes ces toiles que j'ai tendues devant ma chaise, où les phrases vinrent se coller, en sauterelle ou moucheron. Ces perspectives de fenêtre où le regard se noie, le mur de chaux où il ricoche le temps que le mot remonte, que la phrase apparaisse au détour d'un sentier. Car il m'a fallu vibrer, comme l'araignée sous les ondulations de l'herbe ou sous les branches basses où le chevreuil passait. Un instant pour écrire, il m'a fallu être là. Je n'ai d'ailleurs qu'à me relire pour m'y retrouver aussitôt. Ils font la trame invisible de mes romans. Nos salives s'y mêlent mystérieusement. Abri, placard, grenier, un coin de terre battu près d'un filet à pêche, dans une cabane d'Amazonie, sous la lumière vacillante d'un morceau de bougie où je les sens dormir autour lorsque j'écris. Des royaumes minuscules, avec seulement ce qu'il faut de place pour ouvrir un cahier. Quelles souterraines affinités m'attachent ainsi à un endroit, car c'est alors seulement que la porte s'ouvre, quand j'infuse sur ce recoin de terre battue, au point de ne plus me sentir respirer, le livre peut enfin surgir, trotter là devant moi. Alors, le lieu d'écriture devient ce corps assis au premier plan, placé seulement pour disparaître, enraciné dans l'absent.
Paul Cézanne s'était levé 2 jours plus tôt, avec cette drôle d'appréhension dont il se souviendra ensuite. Allumant sa pipe, il avait tourné dans sa chambre en songeant à la toile en cours. Comme souvent, quelque chose l'empêchait. Il se sentait tout prêt pourtant. Entr'ouvrant la fenêtre, il était sorti sur le balcon. La ville, silencieuse, semblait déserte. Inhabité. Le ciel était encombré de nuages. Mon Dieu, envoyez-moi les vents. Le ciel est trop bas aujourd'hui. Il aurait voulu la même lumière, la même journée qu'hier. Il aurait voulu que le monde retienne son souffle pour lui laisser le temps de poser quelques touches de couleur encore, capter le sourire du vallon tel qu'il lui était apparu. Car il y avait eu à cet instant dans l'atmosphère une intelligence si palpable qu'il avait, avant de songer à traduire, d'abord remercié. Puis, haussant les épaules, ou bien je ferai avec les gris. Le jour n'est pas encore levé. Il s'habille, enfile ses sabots, rassemble ses affaires, le bouteillon dans le carnier, avec la miche et quelques olives. Déjà le cœur s'allume dans sa poitrine, les mains trépignent sur les objets. Le voilà qui s'empresse, harponné par cette promesse, cet élan enfantin qui le jette sur les chemins par tous les temps, avec ses brosses, ses peintures pour courir au premier matin du monde, tenter d'en saisir un fragment avant que déjà les lumières tournent et que les couleurs sèchent sur sa palette avant que d'être né. La calèche attend devant la porte pour l'emmener à l'ancienne carrière. Un vieil homme comme lui penché sur sa vieille mule. Et à peine assis derrière eux, ses relents de sueur mêlés d'ail et de vin. Passé l'aqueduc, la voiture prend un chemin poussiéreux où l'on oublie aussitôt les rues corsetées de pavés pour s'élever vers la résine et les bouquets de chêne. C'est ici, sur ce plateau qu'est le ventre de la ville. Ici, que des millions d'années plus tôt ont macéré ces pierres, ocre, extraites de la roche au fil des siècles pour bâtir les maisons. Les hommes repartis, la garrigue a envahi ce réseau de cavernes anguleuses, percées de cheminées, où l'œil du ciel se glisse encore entre les feuilles. Est-ce d'y avoir joué enfant ? De savoir aujourd'hui encore dans quelle fente gîtait le lézard attrapé 50 ans plus tôt ? Il reste dans ce lieu un peu de cette solennité ingénue où l'on s'apprend en se frottant au monde. Souvenirs d'initiation, de peurs intenses et d'éblouissements, disséminés comme autant d'éclats, de pigments précieux dans ces cavités tapissées de fougères, où devant des parois jaunes, safran s'offre une gamme infinie de pénombres. Il vient pour ses perspectives, quand planté au bord du vide, il voit la plaine s'écailler sous le ciel devant la Sainte Victoire, la montagne du vent. Plus que n'importe où ailleurs, c'est ici qu'il aime peindre. La calèche en allée, le voilà donc qui caracole sur les sentiers de la carrière par ce matin d'avril. L'appréhension l'a quitté. Il trotte, le chevalet à l'épaule, va comme la fleur de ciste, tendre et froissée avec le cœur en étamine, invoquant à chaque pas le temps d'avant les hommes. Il se voit avancer dans une mer chaude du Pléistocène, plongé jusqu'à la ceinture dans des remous de cadres, des ondulations de fenouil et d'écume grise des graminées. Éperdu, reniflant, il glane déjà quelques reflets, les bouffées d'une menthe fraîche battant l'appel des sensations. Car il a trouvé l'endroit, la veille, en partant. Cette trouée comme une terrasse devant le vide, un lieu prometteur, il le sent, qui éparpille ses affaires pour dresser à l'ombre des pins le périmètre de l'affût. La Sainte Victoire est devant lui, fidèle au rendez-vous. À cette heure, elle se confond encore avec le ciel qui ne lui laisse que la dispense d'une silhouette noyée dans des nuées de gris. Paul la salue distraitement, tout occupé qu'il est à ouvrir son carnier, cherchant un trou d'ombre pour le litron. Et c'est comme ça, avec cette légèreté pleine d'allant, ayant posé le chevalet, sorti un morceau de fusain, qu'il laisse partir ses yeux comme deux bons chiens, tâter le vent, flairer le rien. Quand il se sent soudain mordu, deux crocs passés sous ses paupières, avec un grand éblouissement.
Je porte depuis 15 ans ce roman sur Cézanne, et chaque fois que j'arrive à lui, le peintre, qu'il me faut le décrire, je m'arrête, impuissante à ajouter un seul mot. L'écriture nous mène parfois dans des écluses, où nous restons bloqués en espérant que la vie vienne peu à peu nous remplir de ce qui nous redonnera les mots. En attendant, je lis ses lettres. Je vais me planter devant ses toiles, foudroyée par la gratitude et l'émotion. Puis je repars en Équateur, où j'habite depuis 3 ans, et je retourne dans la forêt. Un jour pourtant, tout est là. Je me souviens précisément de cet après-midi d'octobre. J'étais revenue en France. J'avais filé une fois encore à Orsay regarder ses tableaux. Et voilà tout à coup que quelque chose s'entr'ouvre, une fissure minuscule où l'écriture peut s'engouffrer. Le temps de l'écluse, c'était ce temps sous les grands arbres. J'avais besoin de cette imprégnation dans une culture animiste pour mesurer à quel point le vieux peintre est un primitif, quelqu'un qui peint en disparaissant dans ce qu'il regarde, afin de mieux livrer passage au surgissement de l'instant. J'ai compris Cézanne dans les forêts d'Amazonie. Au fond, il a beaucoup à voir avec mon guérisseur du Bobonasa. Ils sont de la même famille, de ce clan d'horizontaux, fondus absolument dans l'endroit qui les contient, un regard sans hiérarchie. L'un chante la terre, l'autre l'invoque par touches colorées. Mais pareillement, elle est là, la terre, visible et invisible, vibrante et mystérieuse, là, portant ce surcroît bouleversant de beauté. Oui, vraiment, ils se reconnaîtraient sans doute. Ils ont tant en commun. On croit que tout est foutu, ici, que l'intact campe à l'autre bout du monde, chez des peuples qui n'ont pas été contaminés encore par notre civilisation. Pour être allé des deux côtés, je sais que c'est partout le même, qu'il y a partout ce côtoiement de la laideur et de la grâce,
à ceci près que ceux qui discutent avec la terre de ce côté du monde sont peu à peu passés dans la marge. Réfugiés dans la peinture ou dans la poésie, ils tiennent la garde aux lisières pour ranimer ces liens par lesquels quelque chose recommence à couler, de l'homme à l'arbre, à la montagne, à la bête, tous ces canaux de l'intense par quoi nous nous sentons tellement vivants.
Il avait cette impression, Paul Cézanne, que ses yeux lui échappaient. Des yeux devenus libres au fil des ans avec un caractère, des foucades et même quelques secrets. Qui dans cette ville, qui même dans ce monde pouvait comprendre cela? Pour la plupart de ses semblables, le regard n'est que ce serviteur fidèle chargé de tenir le corps à la rampe, régler la netteté sur un geste, rapporter l'objet égaré, de l'antenne servile répondant à la voix, avec bien sûr une réalité à l'avenant, bien tassée dans sa forme, comme serrée dans un gant. Tandis qu'il voyait, lui, les choses bien autrement. À dire vrai, ce n'était pas de son fait. Paul n'avait rien décidé, sa vie de peintre et d'homme était ainsi faite de surprises et d'assauts. Une série d'effractions, de percements venus comme pour l'attendrir et le déposséder. Sans tenter de traduire ces expériences, au moins pouvons-nous en esquisser le périmètre, énumérer quelques-unes de ces tribulations qu'il ne parvenait pas à comprendre, mais qui lui arrivaient pourtant. Bien avant l'éblouissement de la Sainte Victoire, il faut remonter à ce qu'il évoquera par la suite comme sa petite initiation. Ce soupçon qu'il contracta dans la maison de son père par une après-midi d'été. Assis dans le rotin, donc, Paul était en train de somnoler à côté du bassin, à l'ombre des grands marronniers, quand il lui sembla déceler comme une bougie, un frémissement devant les arbres. La sensation était infime, mais avec ce petit mouvement, on aurait dit que les reflets sur l'eau, les feuillages, les buissons s'évaporaient soudain, devenus ces taches impalpables. Un instant, par cette ouverture, l'endroit lui parut si nouveau qu'il se mit à pleurer, de gratitude et d'effroi. Car cette beauté était surtout terriblement vivante, dérangeante, presque monstrueuse dans ses palpitations, au point qu'il comprit aussitôt qu'il pourrait en mourir. C'était comme à surprendre ce jardin à sa première lumière, dans sa nativité. Paul avait tout juste 20 ans. Beaucoup se seraient frottés les yeux pour s'extraire de ce vertige sans faire une hallucination et ne plus y penser. Le jeune homme prit la chose au sérieux. L'expérience n'est rien, comme on le sait, sans l'engagement qui s'ensuit. Et il y avait maintenant ce doute qui le faisait trousser la réalité, surveiller intensément les choses, les regarder deux fois. C'était entré en sédition. Il ne mesurait pas en ce milieu de siècle ce qu'une telle attitude pouvait avoir de subversive dans une société du premier regard, où l'apparent tenait lieu de vérité et de dogme. Espéré avec tant de patience, la sensation revint. C'était toujours où des beautés. Un miroir se mettait aux écailles de l'orvet qui coulait devant lui parmi les herbes, où une trémulation entrait dans une couleur qui le faisait tomber en pâmoison devant la posture d'une pomme ou l'écorce d'un chêne. Il y sentait un chemin, le début d'une quête, quelque chose à creuser. Il fallait pour cela d'autres yeux que ceux qui étaient allés à l'école, des yeux sauvages, primitifs, qui devait réapprendre à chasser. Ainsi, Paul se lança dans la peinture comme un nomade des premiers temps, avec en guise de lance un fusain affûté et une feuille de papier où crayonner le piège. Apprenant d'abord le paysage en s'exerçant à le copier et jusqu'à chaque ombrée, chaque touffe, il s'y ajustait si bien qu'il finissait par s'y rendre insoupçonnable, s'appliquant à disparaître à toutes les heures, par tous les temps, c'est-à-dire d'évident avec une attention sans faille les soies tendres de l'araignée. Comme les chasseurs, accroupis derrière un buisson, attendaient que la forêt leur crache tout à coup une bête. Planté devant le rideau de l'anodin, Paul guettait la surgie de ces entités palpitantes que sont les couleurs. Car il y avait toujours ce moment où elle se détachait du tronc de l'arbre, de la meute endormie des maisons, pour s'animer, révéler ce frisson intime qui venait arrondir l'écorce, éparpiller les toits. On ne soupçonne pas le travail qu'il faut pour mettre les yeux en patience, les dresser à tenir à la fois l'ample et l'étroit, jusqu'à surprendre ce bain bleuté qui relie deux collines l'une à l'autre, les fait parler. On comprend que le musicien dut exercer ses mains pour l'instrument, et l'on s'étonne que le peintre dût entraîner ses yeux. Il fallait surtout leur apprendre à oublier le nom des choses, tout ce qui pouvait réveiller un souvenir, enclencher la machine à penser. Ne rien mettre entre la rétine et le monde, alors seulement la vie pouvait débouler du terrier pour passer ventre à terre devant soi. Au début, les yeux du jeune peintre voulaient surtout batifoler, ou pire encore, faisaient semblant de tenir l'arrêt pour s'envaser dans une sieste. Mais Paul était inflexible, qui les rappelait à l'ordre, les frottait vigoureusement avant de les jeter à nouveau devant lui. Il regrettait les premiers temps qu'il n'existât pas un organe exclusivement dévolu à sa quête, puis il comprit qu'il fallait au contraire, comme pour les mains du violoniste, qu'elle puisse aussi tenir le pain, serrer la main, caresser le sein et se curer le nez. Elle était là, l'aventure, rencontrer l'inespéré par le simple. La tendreté, la vulnérabilité de ces globes luisants rangés dans leur sac de peau rétractile et larmoyant au moindre vent, la tendrissait. Surtout qu'au fil des mois, les yeux s'étaient pris au jeu, qui ne rechignait plus à aller sonder la roche avec l'héroïsme naïf des enfants. Souvent la paupière s'enflait, le blanc de l'œil s'injectait de sang. S'agissait-il seulement de peinture pendant ces temps d'arrêt? Reste-t-on à ce point immobile des heures durant pour un tableau? Parce qu'il y avait d'abord ce bonheur simple à partir, retrouver des amis, comme il disait. Ses amis, c'étaient les collines, les ruisseaux, les montagnes. Scrutée ainsi sans relâche, la nature redevenait naturelle qui se montrait comme une bête pour venir jusqu'à lui. C'est qu'il restait si peu de l'homme effeuillé de la sorte par une telle attention que les alentours s'autorisaient à respirer plus fort, entraient dans la connivence, redevenaient conscients. Partout, les formes oscillaient. Mise en confiance, elle se livrait vraiment. Ses journées à l'ancienne carrière dans les fraîcheurs de l'Arc, sur les flancs de la Sainte Victoire, le nourrissaient de ces petits mystères concrets dont les premiers hommes avaient nourri leur légende, sans doute. À tremper dans ces musiques sourdes qui transpirent du cœur des choses, il savait comme l'oiseau deviner le changement de temps aux articulations d'un feuillage, ou pressentait le lièvre à l'épaisseur d'un coin d'herbe où il aurait gîté aussi. Dans ce bain d'émanation où semblait germer le monde, il n'y avait plus de dehors ni de dedans, qu'un même surgissement. Et les yeux qu'il avait dressés d'abord à gravir la montagne pour dresser les plans et rapporter les formes, finirent par entrer dans des subtilités, des accointances, où la tête et la main ne savaient pas toujours suivre, ce qui le comblait et l'effarait en même temps. Les yeux pensaient sans lui au plus près des couleurs. Une nuit, il sentit entre deux rêves quelque chose qui brillait là-haut sous ses paupières comme si l'on avait laissé la lumière allumée. Le temps de s'éveiller, il aperçut soudain la maison sous les trembles, celle même qu'il avait tenté de peindre pendant toute la journée. Elle apparut comme une soie déployée sans qu'il n'eût rien suscité, ni souvenir, ni pensée. L'image était là, hors de toute volonté, comme si les yeux du peintre s'étaient emmenés un pan de la splendeur, comme un os à ronger pour la nuit. Une autre fois, assis derrière le chevalet, il intima à ses yeux un mouvement. mais ils partirent à l'opposé, sûrs de leur fait, avec un genre d'instinct comme un pressentiment de l'endroit précis où la couleur allait parler, donner l'aplomb. Ils ne se trompaient pas. L'écart n'était pas toujours si grand entre les prunelles habiles à s'engouffrer sous la surface des choses et la main laborieuse qui tentait de traduire, parlementer avec la toile et les pigments. Parfois, l'œuvre allait bon train et le peintre s'y flottait. Mais constamment, la virtuosité de son regard semblait lui lancer un défi, l'obligeant à inventer, trouver des ruses pour tenter de retranscrire ce que les yeux voyaient. Quoi qu'il fît, c'était toujours eux qui dirigeaient la besogne, indiquaient où poser les touches. Au fil du temps, ils étaient devenus tellement intelligents que le peintre se persuada qu'ils avaient développé au contact de l'intense une lumière, et pour tout dire, une âme supérieure à la sienne. Si à certains moments, le vieil homme coupait court, s'écriant à voix haute, « Mais tout ça, ce sont des divagations !» La chose le troublait pourtant. Il avait fini par nourrir à l'égard de ses yeux une défiance, un complexe. Les colères proverbiales, les fureurs sauvages qui dévastaient l'atelier renversant meubles et flacons ne se retournaient pas contre celui dont les toiles étaient constamment refusées des salons, mais vers l'âme inférieure, si peu habile à traduire tant de beauté sur un carré de toile avec quelques pauvres taches d'huile. Et si mes yeux se décourageaient de moi, pensait le peintre.
Le désastre me laisse sans mots. Dans une impuissance hagarde, où je me fige, incapable de trouver la force d'un début d'indignation. Dans ces moments, je n'ai pas d'autre choix que de me laisser traverser, rétracté soudain par la vision d'une prairie de fleurs sans le moindre insecte, par ce matin de printemps, cette montagne arasée dans la région de Zamora par l'exploitation minière. Le désastre me propulse hors du temps, dans un espace silencieux dont je perçois pourtant chaque détail, contrainte d'avancer malgré moi dans ce ralenti glacé dont je glane, suffocante, les moindres sensations.
Qu'est-ce que la laideur pour vous, monsieur Cézanne ? C'est les Prussiens chez Pissarro, répond Cézanne aussitôt. Pendant la guerre de 1870, les rumeurs des exactions de l'armée prussienne étaient si effroyables que les campagnes, les villages se vidaient devant eux. Apprenant qu'ils approchaient, la famille Pissarro avait quitté précipitamment sa maison de Louveciennes. Réfugiés d'abord en Normandie, ils avaient dû gagner l'Angleterre, car l'ennemi progressait. Les Prussiens s'installèrent à Louveciennes, chez le peintre. La maison était si vaste, avec une grange, une cour. Ils en firent une boucherie. On dépeça chez Pissarro toutes les vaches alentour, avec aussi les chevaux de trait et ceux défaillants de l'armée en déroute. Comme il pleuvait beaucoup, qu'on dérapait sans cesse dans la boue et le sang, on avait sorti toutes les toiles de l'atelier, arrachées de leur châssis, puis jetées comme ça, par terre, entre la maison et la grange, dans cette gadoue immonde. Dans les toiles qui restaient, les bouchers s'étaient taillés des tabliers. Plus de 600 tableaux avaient ainsi disparu, que le peintre n'avait jamais retrouvés. Après la guerre, Pissarro se contenta de ramasser quelques meubles, puis partit s'installer à Pontoise. Les images viennent aussitôt de ces carrés de toile peinte, ces arbres alignés le long d'un chemin de campagne, le visage de cette jeune fille, jupe relevée, les pieds dans l'eau, le verger croulant sous les fleurs, ou ce tas de foin que butinent les bras fourbus, les corps pliés. Est-ce qu'un seul de ces soldats avait posé les yeux, fût-ce un instant, sur ce bout de jardin, ce regard d'enfant, avec toutes les couleurs à l'avenant, les chatoiements du contact, ces éclats de vie simples et splendides où la terre parlait des mains qui la touchaient, avec une haleine chaude et un cœur affleurant. En fut-il un seul dans cette armée en déroute pour être seulement un peu touché? Où sont les yeux tandis qu'on crie, qu'on court, qu'on tranche? Est-ce que l'on voit un peu ce que l'on piétine dans ce va-et-vient méthodique, cette succession d'ordres criés? Puis voilà la bête amenée, affolée, ses pattes empêtrées dans les cordes tandis qu'on la bouscule, la bête qui beugle et qui s'effondre à côté de ses toiles peintes où l'on s'essuie les mains, où vient gicler le sang, tandis que sous les pieds, là, dans la cour, tandis que sous la boue alourdie et fumante apparaît un visage, une branche, une main. Aussitôt, les images viennent de l'énigme où tout se tient face à face sans que la beauté, là, pourtant, toute proche, déployée sur ses toiles, n'ait rien pu empêcher.
Écriture et porosité, où respirer pour que le livre vive et que ma vie n'en suffoque pas.
Mon Dieu, se pourrait-il que le regard que l'on porte sur le monde ait un pouvoir si grand?
Un levrault est venu me chercher hier, en fin d'après-midi. Avec un mélange d'insistance et de désinvolture, il s'est avancé prudemment jusqu'à l'escalier de la maison, la tête tournée vers le carreau de mon bureau. Qu'est-ce qui donne au moindre geste de la bête un tel accent de vérité? Cette accointance avec la forêt, d'y gîter, d'y manger, d'y aimer, d'y mourir, la forêt le dote de ce surcroît, une intensité redoublée de présence avec la grâce de celle qui ne le soupçonne même pas. Ce lièvre est venu hier soir pour me dire « Tu m'asserres trop dans le connu, tu finis par mettre tes phrases comme des poids sur une balance. Laisse-toi surprendre, viens tremper ton verbe dans ce qui dort dehors et dont la fourrure chaque matin goûte-t-elle de rosée. » Il marchait avec l'air de pousser devant lui une pelote de vent. La poésie était dedans. Il a raison. Pas un mot ne s'écrit qui n'ait d'abord été porté dans les ronces. Un mot sans racine, un mot qui ne passe ni par le tamis de l'expérience, ni par le toucher d'invisible présence, c'est-à-dire le contact avec ce qui relie. Un mot qui n'a pas de prémonition ou ne porte pas un secret avec lui est comme une feuille brune au pied de l'arbre. Je comprends que j'écris désormais sur le modèle de l'araignée, pas l'araignée qui tisse. Un jour peut-être aurai-je cette grâce. Non, l'araignée qui répare le monde tel qu'il est, avec ses suffocations et ses blessures, le monde tellement éprouvé par nous, les hommes. La toile est invisible. Le livre se révèle peu à peu dans ce qu'il montre d'espace à investir, à habiter, car il a ses propres lois. Le livre est la reconstitution instinctive de quelque chose qui ne se montre que par endroits, que par instant. L'expérience me demande beaucoup de lâcher prise et surtout de ne pas être fascinée par les fragments. Mais le livre implique surtout, et le lièvre est venu hier soir le redire, de nourrir chaque fois, chaque jour, à chaque instant, l'écriture par la connexion au vivant. Après un moment en forêt à écouter le vent dans les feuilles, à chercher des paroles minuscules dans la mélodie du ruisseau, j'ai en moi un peu de cette sève vive qui colle les mots au regard, au vécu. Il me reste à les ramener intacts dans mon bureau.
C'est que pour peindre mes tableaux, il me faut aller loin, très loin. Ah, seulement si vous saviez. Avant de commencer ma toile, poser la première touche, je dois d'abord trouver le fond, vous comprenez? On peint toujours du plus profond vers la surface, comme la terre nous apprend. Il n'y a qu'à voir comment la graine s'enracine bien d'abord avant que de percer. Et ce fond du paysage que je veux mettre sur ma toile, cette sensation qui va l'habiter d'abord comme une conscience, un souvenir bleuté, est aussi le fond du monde. Je veux dire son origine, son premier rêve, le monde dans sa virginité. Alors quand je suis dans cette sensation qu'elle se traduit à moi, mes yeux, ils ont tout oublié. Ils sont devenus innocents, revenus comme au premier jour. Tant d'efforts, quand il y pense, et Cézanne, pour arriver jusque-là. Tout ce travail, ces souffrances, ces méditations pour percer les couches du quotidien, revenir à ces brumes, ces irisations, à cette nudité première, avant les noms que l'homme met sur chaque chose qu'il regarde, avant ses gestes pour tout s'approprier. Oui, il faut tout cela pour disparaître à force de présence, sans quoi rien ne peut advenir, et l'on se montre soi au lieu de naître avec le monde, et l'on n'a rien vécu de vrai. Dans ces échappées, il devient comme ces hommes, nus et farouches, la main trempée dans le sang, dans les fumées du sacrifice et de la transe, et qui faisaient surgir sur les parois des cavernes ces bêtes qui courent encore, n'en finissent pas de galoper.
Ici, les montagnes s'écartent comme deux paumes pour donner au vent une coupe où le coassement du corbeau flotte plus longtemps qu'ailleurs, puis soudain disparaît. Au fond de la combe, le torrent promène un lourd soupir traîné. La buse, la tendreté de cette plainte posée dans l'épaulement du vide. J'ai regardé le tas de pierres comme une personne. Je ne cherche plus à arracher au monde des mots qu'il n'a pas prononcés.
En restant dans ces traces, en ne couvrant pas la voie du contact ou de l'intention, la langue de tous les jours laisse un espace pour le chant. Il n'en prend que plus de relief, lui qui ne surgit que la nuit, après que l'on a soufflé la flamme. Lui qui ne peut être prononcé que par celui qui guérit, et dont chaque parole, jusqu'à la mélodie, a germé pendant la sèse, soufflée par l'autre monde et la force des visions. Le chant, c'est cette volée de pierre jetée en travers du ruisseau, ce qui permet à la parole de traverser l'indicible sans s'y noyer. La fulgurance de la surprise et la certitude au même instant que cela a été voulu. Le guérisseur est celui qui se plante nu devant la parole du monde. Et je repense soudain à ces bardes éructants figés au sommet d'une colline pour envoyer leur verbe en bouclier devant l'armée. Tous ces anonymes foudroyés par une parole qui les déborde et dont chaque syllabe habillera le fronton des temples ou sera transmise pour 1000 générations par la voix des grands-mères. J'ai l'impression de voir naître dans chacun de tes gestes, dans chacun de tes mots, ce que l'on appellerait poésie de mon côté du monde, avec cet art de poser le verbe en couronne au-dessus de l'action.
Un lièvre surgit au milieu du sentier, puis s'assoit. Les yeux du peintre s'approchent sans bruit, plongent leurs doigts dans cette fourrure légère. Rien qu'à toucher la bête du bout de l'œil comme il le fait, Paul n'a plus le même souffle. Une attention électrique parcourt sa colonne, agite ses narines. La laine de la terre remonte entre ses pattes où sont les herbes mâchées, les chemins empruntés, les coulées pour l'enfuite. Frémissant depuis le bout des poils jusqu'aux moustaches, il se tient ramassé, prêt à bondir. Tellement fondu dans cette prunelle ourlée de bistre qu'il se voit, lui, le peintre, par le regard du lièvre, assis devant le gros rocher, un fusain à la main. Il s'éparpille, il est partout, le peintre, dans le buisson qui frémit, la branche souple qui s'agite à l'envol de l'alouette. Il est son cœur battant, son cri roulé, le vin aigre du sorbier sur sa langue fine. C'est elle qui boit le ciel à petite lampée, une aile d'oiseau au jour naissant. Mais il est aussi le vent où elle s'appuie, chargé de la tiédeur des bergeries ouvertes, portant le tintement des clochettes avec un souvenir de terre retourné au passage des sangliers, qu'il est encore évidemment. Et c'est lui toujours qui roule avec la vague lourde que le soleil naissant distille dans les feuillages, ce poudroiement qui dévale la colline et la recrée. Partout cela bruisse, partout cela respire. Il est dans chaque étincelle, chaque point de vie, sans volonté, sans préférence, porté au fil des surgissements. Car tout importe quand on peint comme il fait. Il n'y a que l'homme pour décréter un centre et faire tourner le monde autour, car tout conspire à cet élan amoureux dont chaque vie fait une marche, dont chaque souffle donne une note, et l'on perdrait tout à choisir, car tout est également vivant.
Le nuage suce la montagne comme un noyau. Les hirondelles, déployées dans le vide, leur ventre prenant la terre, leurs ailes faisant éclat. La caille, entre les feuilles sèches, ne m'a pas encore vue. Mon âme, voici le vent, il est pour toi.
Il y a le vent premier, manteau du souffle, où chacun prend sa part de vie. Les vents cardinaux, messagers d'une sagesse. Il y a les vents de lune, les vents d'étoiles, les vents brillants et les vents ternes. Il y a le vent soleil qui souffle jusque dans le pistil des fleurs et dresse un tourbillon dans la corolle du pissenlit. Le vent profond qui remonte des entrailles du monde, la force et l'inspiration des bêtes sauvages qui sont aussi des esprits. Le petit vent d'écaille qui ondule entre les herbes. Le vent de poils serré autour du regard des fauves où la forêt irrésistiblement s'engouffre comme au creux d'un siphon. Il y a le vent qui guide le vol de l'abeille vers la prairie d'Angélique ou l'arbousier en fleurs. Le vent des mois qui met dans la gorge du cerf le gémissement des grands arbres. Il y a le vent de la bête devant le chasseur qui court. Et derrière ses pas encore le vent du sentier qu'il a emprunté. Tant de vent, chacun prenant sa part de vie dans le manteau du souffle. Tant de façons de prononcer le monde. Vent roulé dans le duvet de la buse qui va quitter le nid. Vent de l'écureuil grimpant le tronc en zigzag. Vent chauffé dans la gorge du pinson qui s'apprête à chanter. Vent de la flûte ou des roseaux séchés. Tant de mots dispersés, fussent-ils minuscules, comme le vent des paupières qui s'ouvrent, ou terrifiants lorsqu'ils déracinent les arbres pour annoncer une malédiction. Tant de paroles courent sur la terre, chacune prenant sa part de vie. Le vent est le manteau du chant.
Il y a des chants de gestes. Des chants pour célébrer l'instant, des chants mêlés, des cœurs d'hommes et d'oiseaux, des chants d'amour en roucoulade, des chants de faim, de rutes ardents, des chants de ventre qui s'écartent au dernier souffle, au premier cri, des chants pour endormir l'enfant, guider le mort vers l'autre monde ou pour pister la bête à la fréquence aiguë d'un désir de rencontre, des chants pour égarer sa peine ou lui donner le temps d'un souffle, une trace. Un appui, des chants perçants et silencieux pour ouvrir la porte des mondes sans être entendu des esprits. Des chants de ciel, de cœur nu, de prières éperdues, des chants de gouffre aussi.
Le désastre me laisse sans mots. Dans ces moments, je n'ai pas d'autre choix que de me laisser traverser, rétractée soudain par la vision des ruines fumant encore d'une maternité qu'on vient de bombarder à Marioupol. Cet enfant seul qui traverse une frontière, un numéro de téléphone écrit sur un papier serré au creux de son poing. Cette image de la forêt amazonienne arasée,
labouré sur des centaines d'hectares, et le manteau des arbres encore intact, aux lisières des derniers sillons. Le désastre me propulse hors du temps, dans un espace silencieux, dont je perçois pourtant chaque détail, contrainte d'avancer malgré moi, dans ce ralenti glacé, dont je glane suffocante les moindres sensations. Ceci aussi est à écrire. Un jour, je trouverai les mots.
Cézanne, chamane, d'Anne Cibran. Enregistrée en public au Festival d'Avignon dans la cour du Musée Calvet le 16 juillet 2022 dans le cadre des voix d'auteur avec la SACD. Avec Anne Cibran, Marie-Sophie Ferdane et Didier Sandre de la Comédie Française. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage, mixage, Pierrick Charles, Bastien Varigo. Sonorisation, Nicolas Depagraf. Chargé de production, Francesca Fossati, Franck Malabry. Assistante à la réalisation, Claire Chénon. Réalisation, Laure Egoroff. Vous avez pu entendre des extraits de Enfance d'un chaman et Le premier rêve du monde, tous deux publiés aux éditions Gallimard, ainsi que des extraits inédits du journal d'écrivain d'Anne Cibran.